Chapitre 8. Comment Don Quichotte mit fin à l'épouvantable aventure des moulins à vent. Dans ce moment, Don Quichotte aperçut 30 ou 40 moulins à vent. Et regardant son écuyer, « Ami, dit-il, la fortune vient au-devant de nos suées. Vois-tu là-bas ces géants terribles ?»«
Quels géants ?» répondit Sancho.
« Ceux que tu vois avec ces grands bras qui ont peut-être 2 lieues de long. Mais monsieur, prenez-y garde. Ce sont des moulins à vent. Et ce qui vous semble des bras n'est autre chose que leurs ailes.
Ah, mon pauvre ami, l'on voit bien que tu n'es pas encore expert en aventure. Ce sont des géants, je m'y connais. Si tu as peur, éloigne-toi. Va quelque part te mettre en prière, tandis que j'entreprendrai cet inégal et dangereux combat. »
En disant ces paroles, il piqua des deux, sans écouter le pauvre Sancho, qui se tuait à lui crier que ce n'était point des géants, mais des moulins, sans se désabuser davantage à mesure qu'il en approchait. « Attendez-moi, disait-il, attendez-moi, lâche brigand ! Un seul chevalier vous attaque !»
À l'instant même, un peu de vent s'éleva, et les ailes se mirent à tourner.
« Oh, vous avez beau faire, ajouta Don Quichotte, quand vous remueriez plus de bras que le géant Briaré, vous n'en serez pas moins puni. »
Il dit, embrasse son écu, et se recommandant à Dulcinée, tombe, la lance en arrêt, sur l'aile du premier moulin, qui l'enlève, lui et son cheval, et les jette à 20 pas l'un de l'autre. Sancho se pressait d'accourir au plus grand trot de son âne. Il eut de la peine à relever son maître, tant la chute avait été lourde.
« Eh bien, que Dieu me soit en aide, dit-il. Je vous crie depuis 1 heure que ce sont des moulins à vent. »
« Paix, paix, répondit le héros. C'est dans le métier de la guerre que l'on se voit le plus dépendant des caprices de la fortune, surtout lorsqu'on a pour ennemi ce redoutable enchanteur Fréton, déjà voleur de ma bibliothèque. Je vois bien ce qu'il vient de faire. Il a changé les géants en moulins pour me dérober la gloire de les vaincre. Patience. Il faudra bien à la fin que mon épée triomphe de sa malice.
Dieu le veuille, répondit Sancho en le remettant debout et courant en faire autant à Rocinante dont l'épaule était à demi déboîtée. Notre héros, remonté sur sa bête, suivit le chemin de Port-Lapis, ne doutant pas qu'un lieu aussi passager ne fût fertile en aventure. Il regrettait beaucoup sa lance que l'aile du moulin avait brisée.
« Mon ami, dit-il à Sancho, je me souviens d'avoir lu qu'un chevalier espagnol, appelé Pérez de Varga, ayant rompu son épée dans une bataille, arracha une branche à un tronc de chêne avec lequel il tua tant de morts qu'on le surnomma l'assommeur. Je veux imiter Pérez de Vargas. Au premier chêne que je rencontrerai, je vais me tailler une massue, et cette arme me suffira pour faire de tels exploits que jamais personne ne pourra les croire.
Ainsi soit-il, répondit Sancho. Mais redressez-vous un peu, car vous allez tout de côté.
Je t'avoue que je me ressens de ma chute, et si je ne me plains pas, c'est qu'il est défendu aux chevaliers errants de se plaindre quand même ils auraient l'estomac ouvert.
Diable, si c'est défendu de même aux écuyers, je ne sais pas trop comment je ferai, car je vous préviens qu'à la moindre égratignure, je crie comme si on m'écorchait.
Mais vous ne pensez pas, monsieur, qu'il est temps de dîner ?
Don Quichotte lui répondit qu'il n'avait besoin de rien et qu'il pouvait manger s'il voulait. Avec cette permission, Sancho s'arrangea sur son âne, tira les provisions du bissac. Il allait, doublant les morceaux et haussant la gourde avec tant d'appétit, avec tant de plaisir qu'il aurait donné de l'envie aux plus gourmets buveurs de Malaga. La nuit vint. Nos aventuriers la passèrent sous des arbres. Don Quichotte choisit une forte branche à laquelle il mit le fer de sa lance. Il se garda bien de fermer les yeux et ne pensa qu'à Dulcinée, pour imiter ces chevaliers qui, dans les forêts et les déserts, n'employaient le temps du sommeil qu'à s'occuper de leurs dames. Sancho ne fit qu'un somme jusqu'au matin, et les rayons du soleil levant, qui lui donnaient sur le visage non plus que le gazouillement des oiseaux à l'arrivée du jour, ne l'aurait pas réveillé si son maître ne l'eût appelé. En ouvrant les yeux, il prit sa bouteille, qu'il s'affligea de trouver plus légère que la veille. Notre héros, qui ne voulait vivre que de ses tendres pensées, refusa de déjeuner. Tous deux se mirent en route et, après 3 heures de marche, découvrirent le port Lapis.
« Pour le coup, s'écria Don Quichotte, nous pouvons ici, mon frère Sancho, enfoncer nos bras jusqu'au coude dans ce qu'on appelle aventure. Mais souviens-toi, sur toute chose, de l'important avis que je vais te donner. Quand bien même tu me verrais dans le danger le plus terrible, garde-toi de mettre l'épée à la main et de t'y précipiter. Il ne t'est permis de combattre que dans le cas où ceux qui m'attaqueraient seraient de la populace.
« Soyez tranquille, répondit Sancho, jamais aucun de vos ordres ne sera mieux exécuté que celui-là. Cependant, si l'on en veut à ma personne, je me défendrai de mon mieux, sans me soucier d'aucune loi.
Tu feras bien. Ce que je t'en dis n'est que pour retenir le premier mouvement et l'impétuosité de ta valeur naturelle.
Oh, monsieur, je la retiendrai.
Vous pouvez être bien certain que je garderai ce précepte aussi religieusement que celui de ne rien faire le dimanche. »
Comme il parlait, Don Quichotte aperçut 2 religieux bénédictins montés sur 2 grandes mules qui lui parurent des dromadaires. Chacun avait son parasol et ses lunettes de voyage. Derrière eux venaient leurs valets de pied. Plus loin, un carrosse entouré de 4 ou 5 hommes à cheval. Dans ce carrosse était une dame de Biscay qui s'en allait à Séville rejoindre son mari, prêt à passer aux Indes. Les 2 religieux ne voyageaient pas avec cette dame, mais ils suivaient la même route. Dès que Don Quichotte les découvrit, « Ou je me trompe, dit-il à son écuyer, ou je t'annonce une aventure, telle qu'on n'en a point encore vue. Ces figures noires que tu vois venir à nous ne peuvent être que 2 enchanteurs qui ont sûrement enlevé quelques princesses et l'emmènent dans ce carrosse. Tu sens, mon ami, que je ne puis passer cela.
Monsieur, répondit Sancho, regardez-y bien, je vous prie, que le diable ne vous tente pas. J'ai beau regarder, je ne vois que 2 moines et une dame qui voyage.
Je t'ai déjà dit, reprit Don Quichotte, que tu ne t'entends point du tout en aventure, et je vais te prouver tout à l'heure que ce que je soupçonne est vrai. »
À ces mots, il pousse Rocinante, arrive auprès des bénédictins.
« Satellite du diable, leur crie-t-il, rendez sur-le-champ la liberté à ces hautes princesses que vous avez enlevées, ou préparez-vous à recevoir le châtiment de votre audace. »
Les moines, surpris, arrêtent leur mule.
« Seigneur chevalier, répond l'un d'eux, « bien loin d'être ce que vous dites, nous sommes 2 religieux de Saint-Benoît qui voyageons pour nos affaires. Vous pouvez compter que nous ignorons si les personnes qui viennent dans ce carrosse sont des princesses enlevées. »
« On ne m'abuse point, interrompt Don Quichotte avec de douces paroles. Je ne vous connais trop, canaille maudite. »
Il court aussitôt la lance baissée contre un des pauvres religieux qui n'eut que le temps de se jeter à bas de sa mule. Son compagnon, effrayé, pique la sienne le mieux qu'il peut et s'échappe dans la campagne.
Sancho, voyant le moine à terre, descend promptement de son âne, saisit le bénédictin et commence à le dépouiller.
Mais les 2 valets arrivèrent et demandèrent à Sancho pour quelle raison il déshabillait le père.
« Parbleu, répondit l'écuyer, je ne prends que ce qui m'appartient.
Monseigneur, Don Quichotte a gagné la bataille. Il est clair que les dépouilles des vaincus sont à moi. »
Les valets, qui n'entendait pas bien les lois de la chevalerie, tombe sur Sancho, le jette par terre et ne lui laisse pas un poil de la barbe.
Ensuite, ils vont relever le moine, le remettent sur sa mule. Et celui-ci, tremblant de peur, se hâte de rejoindre son compagnon qui, arrêté au milieu des champs, regardait ce qui se passait.
Tous deux alors, sans se soucier d'attendre la fin de cette aventure, poursuivent bien vite leur route en faisant des signes de croix.
Don Quichotte, pendant ce temps, s'était pressé de joindre le carrosse, et s'approchant de la portière, « Madame, dit-il, votre beauté peut aller où bon lui semble. Ce bras vient de vous délivrer et de punir vos ennemis. Vous désirez sans doute connaître le nom de votre libérateur. Apprenez donc que je suis Don Quichotte de la Manche, chevalier errant, et l'esclave de la belle Dulcinée du Toboso. Je ne vous demande pour prix de ce que je viens de faire que de vous donner la peine d'aller jusqu'à Toboso, de vous présenter devant cette illustre dame et de lui dire comment je vous ai rendu la liberté. » Ce beau discours était écouté par un cavalier biscayen qui accompagnait le carrosse. Il n'y comprenait pas grand-chose. Mais voyant que notre héros s'opposait à ce que la voiture continuât sa route et voulait absolument la faire retourner du côté de Toboso, il s'approcha de Don Quichotte, qu'il tira rudement par sa lance, et lui dit en mauvais espagnol de son pays « Va-t'en, cavalier de Malvas, par le Dieu qui me crée, si toi ne pas laisser le carrosse, moi te tuer, comme suis biscayen. » « Malheureux, répond le héros, si tu étais chevalier, j'aurais déjà châtié ton audace. » « Moi, mon cavalier, reprit l'autre, moi, biscayen, gentilhomme père terre, père mère, père le diable, toi, mentir, tire ton épée. » À ces paroles, Don Quichotte jette sa lance, prend son glaive et, couvert de son écu, se précipite sur son ennemi. Le biscayen, qui le vit venir, aurait voulu mettre pied à terre, ne se fiant pas beaucoup à sa mule de louage, mais il n'en eut pas le temps. Tout ce qu'il put faire fut de mettre l'épée à la main et de saisir promptement un coussin de la voiture pour lui servir de bouclier. Toutes les personnes qui les entouraient voulurent en vain s'opposer au combat. Le biscayen, dans son jargon, jurait de tuer quiconque ne le laisserait pas faire. Et la dame du carrosse, qui dans sa frayeur avait fait signe au cocher de s'éloigner, regardait de loin en tremblant les deux terribles adversaires. Le biscayen, le premier, porte un si furieux revers à l'épaule de son adversaire que si l'écu ne lui paraît, notre héros était fendu jusqu'à la ceinture. Don Quichotte jette un cri terrible. « Fleur de beauté, dit-il, dulcinée, souveraine de mon cœur, secourez votre chevalier dans cet éminent péril. » Prononcer ces mots, lever son épée et fondre sur le biscayen fut aussi prompt que l'éclair. Celui-ci se couvrit du coussin, et ne pouvant faire remuer sa maudite mule, qui n'était pas dressée à ses gentillesses, il attendit de pied ferme l'épouvantable coup qui le menaçait. Tous les spectateurs, immobiles, les yeux attachés sur les glaives, demeurèrent glacés d'effroi. Et la dame, au milieu de ses femmes, faisait des vœux à tous les saints d'Espagne pour le salut de son écuyer.